Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Jusqu'à 9h, Good Morning Business.
L'État va revoir à la baisse le plafond de l'ARENH en 2023. C'est une information du Point. Le volume d'électricité nucléaire qu'EDF doit céder à ses concurrents à des tarifs bien inférieurs à ceux du marché. Le plafond pourrait être ramené à 100 TWh l'an prochain, après avoir été relevé à 120 TWh en 2022. Bonjour Nicolas Goldberg.
Bonjour.
Expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Ce serait une bonne décision?
C'est une bonne nouvelle pour EDF, hein, parce que là, il faut bien voir que cette année, il manque 10 milliards d'euros dans la caisse d'EDF. Hein. Vous commencez à le voir, hein. Quand il manque 10 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que EDF a financé en partie le bouclier tarifaire de 2022. Ce qui a été un peu surprenant, hein, c'est une décision qui a été prise en fin d'année. L'État a dit à EDF, vous vendez plus de volumes régulés. EDF a dit, oui, mais on l'a déjà vendu, en fait. On n'a pas attendu décembre pour vendre les volumes de l'année d'après. Et donc, ils ont dû racheter sur le marché de l'électricité pour la donner à leurs concurrents et à leurs clients. Donc effectivement, on a eu l'année dernière cette décision prise un petit peu dans la hâte. Là, le bouclier tarifaire pour les entreprises va être financé différemment, comme vous venez de le dire. Hein, c'est l'État qui va prendre en charge une partie de la facture au-dessus d'un certain montant. Pour les particuliers, ils ont limité ça à 15% pour l'électricité, 20% pour le gaz, et c'est l'État qui va abonder. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour EDF, et c'est à mon sens un petit peu plus cohérent que ce bouclier tarifaire, on le finance avec l'État plutôt qu'avec les caisses d'EDF.
Ça fait des années que EDF dit c'est pas possible, ça bousille les comptes, en fait.
Ça bousille les comptes pour plusieurs raisons. Il faut bien comprendre pourquoi on a fait ce nucléaire régulé. On disait il faut ouvrir la concurrence. Donc EDF, vous avez un avantage compétitif avec votre parc nucléaire, vous en faites profiter vos clients, mais aussi les clients des autres. Sinon, on n'ouvre pas le marché. Et alors, on a établi un montant et un volume. On a dit c'est 100 TWh, 42 euros. Pourquoi 42 euros? Personne ne sait, et ça n'a jamais été revu depuis 10 ans. Donc l'année dernière, ils ont dit on augmente un petit peu le volume, et on augmente à 46,20 au lieu de 42 parce qu'on prend en compte l'inflation. Mais effectivement, c'est pénalisant pour EDF, et c'est pénalisant pas que pour EDF, mais pour le système électrique en général, parce que là, il faut réinvestir dans un nouveau système électrique, déjà parce qu'il vieillit, et ensuite parce qu'il y a l'objectif de neutralité carbone, où on va avoir besoin de plus d'électricité.
Une demande du nouveau patron d'EDF, ne serait-ce que pour avoir la main libre.
C'est pas que une demande du nouveau patron d'EDF, hein. Enfin, les salariés prennent assez mal ça, en fait, et l'ont assez mal pris l'an dernier, parce que eux disent c'est peut-être le consommateur en monopole qui a financé ce parc nucléaire, mais enfin c'est nous qui l'entretenons, et quand on nous dit en décembre pour janvier il faut racheter des volumes sur les marchés pour les donner à tout le monde, enfin nous on comprend pas. Donc c'était une décision globale, c'est positif pour EDF. À mon avis, ce sera positif pour le système électrique dans son ensemble, parce qu'il faut réinvestir, parce que le système est vieux, parce qu'il faut investir dans la neutralité carbone.
Si on ramène le plafond de l'ARENH à 100 TWh, quelles conséquences pour les fournisseurs alternatifs? Est-ce qu'il va y avoir de la casse?
Pas forcément, en fait. C'est 100 TWh, mais il ne va pas forcément y avoir de la casse, puisqu'on leur dit, au-dessus d'un certain montant, c'est l'État qui prend en charge. Mais de la casse, il y en a déjà eu chez les fournisseurs qui s'étaient mal comportés. Typiquement, tous ceux qui ne s'étaient pas couverts sur les marchés, qui avaient vendu de l'électricité qu'ils n'avaient pas et qui espéraient des baisses de marché pour pouvoir ensuite les racheter et les vendre à leurs clients, tous ceux-là ont fait faillite.
Hein. Et la Commission de régulation de l'énergie a promis d'être vigilante.
Elle a promis d'être vigilante parce que vous avez aussi certains fournisseurs qui prennent ces volumes régulés à EDF et qui se disent, en fait, j'ai plus intérêt à les vendre sur le marché qu'à les fournir à mes clients. Donc, je pousse mes clients vers la sortie, je me mets peut-être en faillite, je me couvre pas sur mes volumes et j'ai plus intérêt à faire ça, et ça la commission de régulation veille, parce que dans ce système de nucléaire régulé, la fameuse ARENH, il y a plein de trous, et donc c'est nécessaire d'enquêter, et à mon avis ce sera nécessaire de revoir ce dispositif qui de toute façon prend fin en 2025.
On en parlait avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, la ministre de la Transition énergétique a annoncé qu'il y aurait un bouclier pour les entreprises, c'est évidemment très attendu. On attendait aussi quelque chose, c'est des décisions à Bruxelles, et là en fait on a décidé d'arrêter d'attendre, on n'attend plus de feuilles de route, de discussions, on dit peu importe ce qui se passera là là-bas, en France, on protégera les entreprises.
Il y a eu quand même plusieurs choses qui ont été faites à Bruxelles. Déjà, taxer les surprofits des moyens de production qui font énormément de profits parce que les marchés montent. Ça a été un dispositif préconisé par Bruxelles et c'est ce que la France veut mettre en œuvre dans son projet de loi finance.
Pour contribution.
Oui, une contribution.
Attention.
Oui, une contribution, parce qu'il ne fallait pas fâcher les
libéraux. Les mots sont importants.
Mais donc, ça, ce sera bien fait et c'est ce qui va alimenter ce fonds-là, puisque la France espère récupérer 7 milliards d'euros en taxant certains surprofits. Côté Bruxelles, on a réagi en disant, on fait une feuille de route pour peut-être caper les prix du gaz, peut-être dupliquer le système ibérique à toute l'Europe, mais on est encore en train de réfléchir. Et justement, là, en fait, du fait qu'on continue à réfléchir, les États réagissent. Il n'y a pas que la France. L'Espagne, la Pologne, le Royaume-Uni ont tous réagi. Alors, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, mais ça fait partie de ceux qui sont confrontés à cette hausse et qui réagissent. Il y a déjà eu des choses en Europe. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu. Par contre, là, effectivement, il fallait faire quelque chose au niveau de l'État et utiliser cette manne financière qui résulte quand même d'une précédente décision de l'Europe.
Mais cette crise, elle acte l'échec de la politique européenne en matière d'énergie et l'échec de l'ouverture à la concurrence.
Elle acte surtout l'échec de l'Europe de l'énergie parce que on a vu ça uniquement comme un marché. On a complètement oublié la politique, on a oublié le long terme et le sujet des infrastructures, des infrastructures de production comme de réseau. On s'est mis dans les griffes de la Russie parce qu'il y avait du gaz pas cher. On s'est dit oui, mais c'est du gaz pas cher. Nord Stream, c'est pas un projet politique, c'est un projet commercial. Donc ça, c'est un vrai échec. Et ensuite, sur l'ouverture à la concurrence, je sais pas si je qualifierais ça d'échec. On voit qu'il y a plein de trous dans la raquette, ça c'est sûr. Il y a peut-être trop de fournisseurs aussi, trop d'acteurs qui achètent juste pour revendre sans valeur ajoutée. Un petit peu de concurrence, c'est bien aussi. Ça force l'innovation. Je sais pas si on aurait fait les énergies renouvelables, je sais pas si on aurait fait Linky sans la concurrence. Mais bien évidemment, la concurrence toute débridé, sans régulation et sans penser le long terme, et ça c'est un échec. Oui.
Mais est-ce que ça veut dire que beaucoup d'entreprises vont revenir chez EDF?
Beaucoup d'entreprises reviennent chez EDF, évidemment, parce que là...
Ça se passe déjà, oui.
Ça se passe déjà, parce que vous avez beaucoup de clients qui se retrouvent sans fournisseurs, ou beaucoup de fournisseurs qui chassent un petit peu leurs clients en mettant des offres qui sont tellement chères qu'en fait, elles disent « Non, mais ça, je peux pas ». Et en fait, en réalité, si là, vous n'êtes pas couvert pour vos volumes de 2023... Il n'y a que EDF qui vous prend, parce que là, les autres entreprises disent, si vous venez chez nous maintenant pour 2023, c'est-à-dire qu'il faut qu'on achète sur le marché, c'est extrêmement cher. Donc, EDF récupère énormément de clients en ce moment, déjà parce que au niveau des particuliers, le tarif réglementé, c'est sûr, c'est protecteur. Et au niveau des entreprises, il y a un côté un petit peu rassurant, un petit peu sûr sur EDF, qui est l'opérateur historique, oui.
On parlait des niveaux de prix. On a perdu plus de 40% sur les points hauts sur le gaz depuis le mois d'août. Le gaz ne réagit plus à chaque déclaration de Vladimir Poutine, comme on a pu le voir ces derniers mois. Est-ce que du coup, ça sert à quelque chose de mettre en place des dispositifs ou alors ça va baisser de fait?
Ah non, ça sert à quelque chose de mettre des dispositifs en place, parce que effectivement, le gaz a fait moins 40% récemment. Enfin, il est toujours à un prix 3 à 4 fois plus élevé qu'avant la crise. Et surtout, en fait, attention avec les prix de marché, parce que les prix de marché, souvent, on regarde le court terme, donc à court terme, ça peut baisser, mais tout le monde s'est déjà couvert sur ces volumes, donc à acheter à un grand prix. Et puis, surtout, taxer les surprofits, même avec des prix du gaz qui ont baissé de 40%, parce que les stockages sont pleins, parce qu'on a moins peur de la pénurie de gaz, et parce qu'il y a un effet prix aussi, à un moment, vous détruisez une demande de volume. Ça fait que c'est quand même toujours beaucoup plus cher. Ça fait qu'il y a quand même toujours des surprofits. Ça fait qu'il y a quand même toujours un prix de l'électricité, par exemple, qui est toujours à 500 euros du mégawatt-heure pour l'an prochain. Donc, il y a quand même besoin de mesures et sur le gaz et sur l'électricité.
Merci beaucoup, Nicolas Goldberg, d'être venu en plateau ce matin, expert de l'énergie chez Columbus Consulting.